Il paraît qu'en ce début d'année 1827, Évariste lut le Gendre en l'espace de 15 jours, et dans le Gendre il y avait quasiment tout Euclide, les éléments au grand complet. Que dans la foulée il lut Lagrange et Euler, et Cauchy, et Gauss, et Jacobi. Qu'il comprit tout, retint tout, qu'il était donc aux mathématiques ce que le petit Salzbourgeois était à la musique, rien de moins, un prodige qui se jouait des théorèmes les plus complexes, comme l'oreille absolue se jouait des chants sacrés, qui de mémoire les retenait, les reproduisait après une seule lecture, comme l'autre avait retranscrit après une seule écoute le Miserere tout entier. On en rajoute peut-être un peu. Les cymbales ont bien fait leur travail. Elles sont là pour ça. Il n'en demeure pas moins qu'Évariste, très vite, gravit la montagne des mathématiques. Et très vite, il fut au sommet, avec Thalès, le père, et sa cohorte de fils Archimède, Fermat, Newton, Euclide, et quelques autres dont peut-être je vous parlerai. Et parce que ces fils gravirent la montagne, sur chacun d'eux, on sait quelque chose. On sait que l'un se rua nu dans Syracuse en gueulant Eureka, que l'autre, qui avait la manie d'annoter dans les marges, fut à l'origine du théorème qui porte son nom, sur quoi pendant 3 siècles on se pencha pour mieux tomber. Qu'une pomme chut sur la tête du troisième, et il n'y a guère que sur le dernier qu'on ne sait rien, qu'on n'a jamais rien su. Mais alors, on joue des cymbales et on le fait naître sous Ptolémée, à Tyr ou à Gela, et on lui fait dire qu'il n'y a pas de voie royale en géométrie. Bonjour, François-Henri des Érables, nous parlons d'Évariste. Évariste, c'est le titre, c'est Évariste Galois, grand mathématicien du début du XIXe siècle. Qu'est-ce qui préside à ce choix d'un mathématicien jeune et surdoué, trop en avance sur son temps? Était-ce le choix d'abord et avant tout d'une époque, de nous parler de cette France toujours en révolution du début du XIXe siècle?
Alors, Évariste Galois, c'est quelqu'un que j'avais dans ma tête depuis un bon nombre d'années. Je l'ai découvert à 14 ou 15 ans. Je lisais un livre qui s'appelle Le dernier théorème de Fermat de Simon Singh. Vous savez, Pierre de Fermat, c'était un diplomate qui pratiquait les mathématiques en dilettante, et il avait pour, on l'appelait le prince des mathématiciens, le prince des amateurs, et il avait pour manie d'annoter dans les marges. Et dans les marges d'un ouvrage de Diophante, il écrit: J'ai la solution à ce problème, mais je n'ai pas assez de place pour la développer ici. Et pendant 3 siècles, 3 siècles et demi, les plus grands esprits mathématiques du monde se penchent sur ce dernier théorème de Fermat jusqu'à ce que Andrew Wiles, un mathématicien britannique, parvienne à le résoudre en 1997. Et pour le résoudre, il utilise, entre autres, les travaux d'Évariste Galois. Et donc, dans ce livre sur le dernier théorème de Fermat, l'auteur brossait en quelques pages le portrait de cet Évariste Galois qui, à 18 ans, révolutionne les mathématiques et qui meurt en duel à 20 ans. Et moi, j'ai 15 ans et je suis fasciné par ce personnage. Donc, il est dans un coin de ma tête et il s'avère qu'il y a quelques temps, je me suis beaucoup intéressé au duel. Et j'ai voulu écrire sur 3 duels. Le premier, c'est celui qui a vu la mort de Pouchkine face à un Français qui s'appelait Dantès. Le deuxième, c'est un duel moins connu en France, mais très connu aux États-Unis, entre Hamilton, qui était ancien secrétaire du Trésor, et Aaron Burr, qui était vice-président des États-Unis. Et le troisième duel, c'était celui de Galois. Et donc, je me renseigne sur ces trois, enfin, sur ces différents personnages. Et en lisant plus de choses sur Évariste Galois, je me rends compte qu'il a une vie tout à fait fascinante. Et qui mérite d'être raconté parce qu'il est très connu de la communauté scientifique, mais pas assez, à mon goût, du grand public. Donc c'est ça qui ça a été ça la première chose. La deuxième chose, vous l'avez dit, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Mon premier livre se passait pendant la Révolution française, en particulier pendant la Terreur, puisqu'il relatait les derniers instants de grandes figures de la Révolution, avant que leur tête ne tombe dans le panier du bourreau. Et là, Évariste vit à une époque où tout s'accélère à nouveau. On essaie de faire tomber la monarchie, il y a les Trois Glorieuses auxquelles il souhaite participer. Et puis cette monarchie de juillet pendant laquelle il va mourir. Alors, il y avait un petit problème, en revanche, c'est que moi je ne connais pas les mathématiques. Je suis bien incapable de comprendre la pensée d'Évariste Galois. Alors, à ma décharge, on ne l'a pas comprise en son temps. Les plus grands mathématiciens de son époque ne l'ont pas comprise. Et je suis plutôt comme un écrivain comme Éric Chevillard, qui raconte dans un livre que j'aime beaucoup, Le désordre azerty, Il dit en substance, on me dit qu'il existe un nombre d'or, qu'il y a des chefs-d'œuvre dans les équations sur certains tableaux noirs. D'accord, je veux bien le croire, mais qu'on ne me laisse jamais entrer dans cette salle avec une éponge mouillée. Moi, je suis un peu comme Éric Chevillard face aux équations. En revanche, ce qui m'a fasciné, même si j'étais incapable de comprendre la pensée d'Évariste, même si je restais comme un béotien face à cette beauté mathématique, c'était d'essayer de saisir la jubilation qu'il a pu ressentir lorsqu'il a découvert d'abord lorsqu'il a découvert les mathématiques, et ensuite lorsqu'il a rédigé son mémoire, son chef-d'œuvre, et puis écrit sa dernière lettre, résumant l'essentiel de ses travaux lors de cette dernière nuit. Et cette jubilation, je pense que tout un chacun est capable de la ressentir, que ce soit en faisant des mathématiques pour lui, ou pour moi en tout cas, en découvrant la littérature, et puis maintenant en écrivant. La grâce qui tombe du ciel sur la page est la même, qu'elle se transforme en équation ou en phrase.
Pour ce choix de Évariste Galois, peut-être aussi, c'est le fait qu'il soit un génie, un authentique génie jeune, juvénile, qui, juste avant 20 ans, révolutionne les mathématiques, est incompris de son époque, mais est compris 40 ans plus tard. Donc un authentique génie dans cette discipline scientifique, dans cette discipline de connaissance, si jeune, c'est absolument fascinant de se dire comment cette grâce intellectuel, créatif, peut tomber comme ça sur quelqu'un. Tomber n'est peut-être pas le terme adéquat, mais soudain quelqu'un peut être touché à ce point-là par le génie si jeune et révolutionner une discipline de connaissances.
C'est vrai qu'il y a assez peu, au final, de figures de génie précoce comme ça, à ma connaissance, ou en tout cas celles qui me viennent à l'esprit tout de suite. C'est Rimbaud, et d'ailleurs sur le bandeau d'Évariste, c'est marqué le Rimbaud des mathématiques, et puis l'autre peut-être c'est Mozart. Alors maintenant je pense que le génie est un terme qui est très galvaudé, on donne du génie à tort et à travers, et dès lors qu'un écrivain à 20 ans publie un livre, les gazettes sont promptes à le qualifier de génie. Je pense que c'est plutôt une création, une recréation, une qualification a posteriori qui sert à essayer d'expliquer un phénomène qu'on ne s'explique pas. C'est-à-dire on se demande comment est-ce que Rimbaud a pu accoucher des vers du bateau ivre à 15 ou 16 ans, comment Mozart a pu être voilà, si précoce, comment Évariste Galois a pu révolutionner l'algèbre, puisque sa théorie des groupes, c'est l'événement fondateur de l'algèbre moderne, c'est à l'algèbre, c'est aux mathématiques, pardon, ce que le 14 juillet 1789 est à l'histoire de France, donc quelque chose d'assez considérable. Comment est-ce qu'il a pu faire ça à 18 ou 20 ans? Donc cette figure-là, cette figure du génie m'a forcément fasciné, puisque oui, c'est un phénomène qu'on ne s'explique pas.
Mais est-ce que vous en savez plus, du coup, sur ce phénomène inexplicable? Est-ce que vous en savez davantage maintenant, après avoir écrit ce livre? Parce que j'ai lu votre livre, François-Henri Désérable, avec cette question tout le temps en suspens sur ma tête, une question plutôt d'ordre métaphysique. C'est quoi le... Enfin, comment est-ce qu'on peut devenir un génie si jeune,
Alors,
en gardant le terme génie, par exemple?
je crois qu'il y a effectivement un certain talent qui est nécessaire, mais je crois au final assez peu au talent. Je crois surtout au travail, en fait. Je crois surtout au travail. Je pense qu'Évariste Galois a beaucoup travaillé. C'était quelqu'un qui était dominé par la fureur. D'ailleurs, son professeur, à Louis le Grand, note sur le carnet qu'on a retrouvé, cet élève est dominé par la fureur des mathématiques. Et c'est quelqu'un qui, dès lors qu'il a découvert les mathématiques, ne pensait plus qu'à ça, ne rêvait que de ça, et s'y est adonné tout entier. Il y a une phrase de Delacroix que je replace dans le livre, La pratique d'un art demande un homme tout entier, et Évariste, oui, s'y est adonné tout entier. Alors après, c'est un être qui était tout entier dominé par la fureur, et pas seulement par celle des mathématiques. Après, il y a eu celle de la République, puisque rêvait de faire le coup de feu aux côtés du peuple sur les barricades, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Il en a été empêché par son directeur, le directeur de l'école préparatoire, qui aujourd'hui est l'école normale supérieure. Il a été enfermé dans son dortoir. Il a réussi à se faire exclure de cette école. Et puis il a rencontré des républicains, et notamment lors d'un banquet où se trouvait Alexandre Dumas, et lors duquel il a porté un toast à la mort du roi. Il s'est retrouvé en prison avec Raspail, qu'il racontait aussi dans ses mémoires, et il a passé les 9 derniers mois de sa vie en prison à Sainte-Pélagie avant d'être mis dans une maison de santé, la maison du sieur Folletrier, qui aujourd'hui est un immeuble qui se trouve rue Broca à Paris. Dans cette maison, il est tombé amoureux d'une fille, et à cause de cette fille, il a été provoqué en duel. Donc, sa troisième fureur, elle est amoureuse. Donc, il y a eu la fureur des mathématiques, la fureur de la République, et la fureur amoureuse, la passion amoureuse qui lui a coûté la vie. Puisqu'il est mort, en duel à l'âge de 20 ans, après avoir dit à son frère, une phrase que je trouve absolument sublime, « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. » Voilà qui était Évariste Galois. Et alors, ce qui est amusant, enfin peut-être pas amusant, mais peut-être assez tragique aussi, c'est qu'on a redécouvert ses travaux bien après sa mort. Ils ont commencé à être publiés 15 ans après sa mort par Joseph Liouville, et ce n'est qu'à partir de 1870, sous l'influence d'un mathématicien qui s'appelle Sophus Lee, qu'on a pris conscience de la profondeur de ce qu'il avait écrit. Et de son vivant, du reste, comme Arthur Rimbaud, il n'a pas été reconnu. Il a d'abord soumis un mémoire à Cauchy, qui était le plus grand mathématicien de son époque, quand il avait 16 ans. Cauchy a égaré le mémoire, il l'a réécrit, il l'a soumis à l'Académie, et notamment à Joseph Fourier, qui était président de l'Académie et qui a eu la mauvaise idée de mourir. Et donc le mémoire a été perdu dans les papiers de Fourier. Et il l'a réécrit une troisième fois. Et là, c'est Siméon Denis Poisson qui l'a eu entre les mains, qui aujourd'hui est encore connu de la communauté mathématique, Siméon Denis Poisson, qui a d'ailleurs son nom sur la tour Eiffel. Et Poisson, lui, n'a pas su déceler le génie d'Évariste Galois. Il a estimé que les développements n'étaient pas assez poussés, qu'il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Et c'est très émouvant lorsqu'on consulte le manuscrit d'Évariste Galois, qui se trouve à l'Académie française, et j'ai pu le consulter. En dessous d'une remarque de Poisson, Galois note « on jugera ». Et on a jugé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Galois a triomphé des remarques un peu acerbes de Siméon Denis Poisson sur son mémoire.
Et la manière dont il a conduit sa vie, Évariste Galois, court parcours de vie, m'a fait penser que c'était un ensemble de circonstances qu'il ne maîtrisait absolument pas. Vous avez parlé de fureur mathématique. Bien entendu, celle-ci est nécessaire et contingente. Mais sa fureur républicaine et à la fin sa fureur amoureuse, elle n'avait pas de nécessité par rapport à sa fureur mathématique. Elles lui ont mangé son talent mathématique. On aurait pu espérer qu'il vive plus longtemps uniquement avec une fureur mathématique et qu'il ait pu après faire apprécier ses théories, les faire juger. Or, la manière dont il... cette étoile filante dans sa vie en quelques années... Est-ce qu'il n'aurait pas gâché son talent de vie ?
Mais lorsque quelqu'un disparaît comme ça prématurément, on se plaît au jeu de l'Uchronie et on commence à poser des questions qui commencent par « et si ?» Que serait-il advenu si Arthur Rimbaud avait continué à écrire ? Quel vers nous aurait-il laissé dans le sillage de ses semelles de vent ? De quelle œuvre Raymond Radiguet eut-il accouché après le diable au corps et le bal du comte d'Orgel, si les soldats de Dieu, comme il disait, ne l'avaient pas fauché si jeune? Et on peut poser la même question avec Évariste Galois. Où en serait l'algèbre aujourd'hui s'il avait vécu plus de 20 ans? Alors la question est assez vaine, puisqu'on n'en a jamais la réponse, mais elle mérite d'être posée. J'imagine qu'il a peut-être aussi tout donné. Il a peut-être tout donné dans le peu de vie qui lui a été imparti, et peut-être serait-il devenu un professeur de mathématiques, ventripotent et décati, ou peut-être serait-il mort très peu de temps après le duel. notamment lors des obsèques du général Lamarque, donc 2 jours après son enterrement, le 4 juin 1832, qui ont été racontés d'ailleurs dans une scène mémorable des Misérables par Victor Hugo, ou alors un peu plus tard, en 48.
Pour une prochaine révolution.
Voilà, lors d'une prochaine révolution. Ou même, on peut imaginer une mort pendant la Commune, après 70. Parce que c'est quelqu'un qui était farouchement républicain. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une sorte de hasard. La vie d'Évariste Galois, c'est comme un crescendo qui débute assez lentement et qui monte un peu comme le Boléro, voilà, qui monte crescendo comme ça, et qui s'emballe jusqu'à l'effondrement final sur le pré. Tout commence à changer à partir du suicide de son père, je crois. Son père se suicide parce qu'une cabale a été menée par le curé du village. Son père était maire de Bourg-la-Reine. Et une semaine après, Évariste Galois, qui rêve d'entrer à Polytechnique, passe l'oral du concours. Et lors de l'oral, estimant que les questions sont trop faciles, il aurait, dit-on, lancé un chiffon à la tête de l'examinateur. Alors il faut dire qu'il était peut-être un peu échaudé par la mort de son père, par le suicide de son père. Et puis après, oui, donc tout s'emballe, il rentre quand même à l'école préparatoire, qui aujourd'hui s'appelle l'école normale supérieure, et qui peut paraître très prestigieuse, mais qui à l'époque n'avait pas le prestige qu'elle a aujourd'hui, donc c'était vraiment à pis aller. Et puis il s'en fait exclure, donc on l'a dit, il s'en fait exclure, il se retrouve, il s'acoquine avec les républicains, et puis il se retrouve en prison, et il aurait pu rester en prison et finir sa peine, et en sortir et reprendre le cours de ses travaux, sauf qu'en 1832, le choléra est arrivé à Paris, et par mesure de précaution, par mesure d'hygiène, on a vidé les prisons et on a placé les prisonniers dans les maisons de santé. Donc là encore, que serait-il advenu si le choléra, s'il n'y avait pas eu d'épidémie de choléra, peut-être n'aurait-il jamais rencontré cette jeune Stéphanie Potrin du motel dont il est tombé amoureux, et alors peut-être n'aurait-il jamais été provoqué en duel.
On a beaucoup cité Rimbaud, pas encore Pierre Michon. Il y a cette phrase en exergue de votre livre, François-Henri Désérable, cette phrase de Pierre Michon issue de Rimbaud, le fils. Il vous fallait faire ce lien non seulement avec Rimbaud, ça c'est pour la comparaison avec Évariste Galois, mais peut-être aussi davantage avec Pierre Michon, et ce serait alors pour se hisser à hauteur de sa langue. Pierre Michon est aussi un modèle de langue pour vous.
Oui, Pierre Michon fait partie avec quelques écrivains de ces géants que je regarde en levant la tête. C'est pour moi un écrivain, si ce n'est l'écrivain majeur dans la littérature française contemporaine. Et c'est peut-être celui qui a le plus d'influence aujourd'hui sur mon style. Alors il y en a d'autres, même parmi les auteurs vivants. Je pense à Éric Chevillard, je pense à Patrick Deville ou à Jean Echenoz, qui lui a d'ailleurs écrit plusieurs biographies romancées, qui sont très belles. Et puis il y a des auteurs beaucoup plus classiques aussi qui m'influencent. Alors au XXe siècle, il y a eu Albert Cohen avec Belle du Seigneur qui m'a donné envie d'écrire. Et puis beaucoup d'auteurs du XIXe siècle, Chateaubriand, Dumas, Hugo, Théophile Gautier, Musset, voilà. Donc les influences sont multiples, mais c'est vrai que Pierre Michon est peut-être celui que j'admire le plus.
Parce que dans votre roman François-Henri Désérable, vous vous emparez d'un personnage qui existe, vous êtes bien entendu documenté sur sa vie, vous êtes documenté sur l'époque pour pouvoir nous la faire ressentir aussi, pour pouvoir montrer ces actions-là. Mais il n'y a pas à proprement parler d'invention fictionnelle qui est propre au romancier. Vous n'avez pas inventé de personnage, vous n'avez pas inventé d'action non plus. Est-ce que c'était pour mieux travailler la langue, être au plus près de l'ambition que vous avez pour la langue française?
Alors, il n'y a pas d'invention fictionnelle, oui et non, parce que lorsqu'on savait quelque chose de la vie d'Évariste Galois, j'essayais de le restituer, je ne voulais pas prendre de liberté avec son histoire. En revanche, sa biographie est pleine de trous. Et ces trous, il a fallu les combler. On sait très peu de choses de son enfance, et surtout on sait très peu de choses des circonstances du duel. Il y a 3 hypothèses. La première, c'est celle d'un complot, c'est-à-dire qu'on aurait voulu se débarrasser à peu de frais d'un républicain exalté qui aurait pu attenter à la vie du roi, et donc cette Stéphanie aurait été un appât chargé de le mener dans la clairière. Bon, moi, je l'accorde peu de crédit à cette hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est celle d'un suicide, qui aurait pu aider la cause républicaine, c'est-à-dire qu'on se serait les républicains auraient pu se faire un soulèvement lors de son enterrement pour définitivement renverser la monarchie. Alors ça n'est pas arrivé le 2 juin 1832, c'est arrivé le 4 pour les obsèques du général Lamarque, dont je parlais tout à l'heure. Et puis la troisième hypothèse, et c'est celle que je partage, c'est celle d'une stupide querelle amoureuse, voilà, et il s'est battu avec un de ses amis. Donc il y a comme ça des trous dans la biographie d'Évariste Galois qu'il a bel et bien, voilà, il a fallu pallier les lacunes de l'histoire personnelle d'Évariste.
Oui, là vous choisissez une hypothèse dans ces cas-là.
Voilà.
Mais néanmoins, un romancier classique actuellement est quelqu'un qui invente des personnages, qui invente des actions. Ouais. Vous, ce n'est pas le cas du tout dans Évariste, même s'il y a des passages romancés, bien entendu, plus ou moins inventés, mais assez peu finalement. Et peut-être que c'était pour mieux travailler la langue. C'est un livre qui fait le choix d'avoir une langue très, très travaillée, très maîtrisée.
Tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse avant tout dans la littérature, c'est le style, c'est la langue. Je me fous un peu de l'histoire qu'on va me raconter, pourvu qu'elle soit racontée dans une langue qui sublime tout ça. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris le parti de m'adresser à une mademoiselle. Alors cette mademoiselle, elle a une fonction qui est d'alpaguer le lecteur, de l'emmener avec Évariste à Louis le Grand, de l'emmener au banquet lors duquel il porte un toast à la mort du roi, de l'emmener sur le pré quand il prend une balle dans le ventre. Ça, c'est sa première fonction. Mais la deuxième fonction, et qui pour moi est très importante, c'est une fonction de rythme. C'est-à-dire que mademoiselle, ça rajoute 4 pieds supplémentaires à la phrase. Et ça me permettait de rajouter 4 pieds supplémentaires lorsque j'avais besoin de relancer le rythme de ma phrase. Donc je m'en servais un peu comme d'une béquille. Et c'est vrai que ce qui fait le style d'un écrivain, pour moi en tout cas, c'est avant tout le rythme de sa phrase, l'agencement des mots. Et j'accorde une importance primordiale à tout ça, aussi à la ponctuation. Alors certains écrivains se gargarisent parfois d'audace kakoshime en faisant fi de toute ponctuation. Alors ça peut donner de très belles choses, mais ça peut aussi donner une sorte de galimatia. Moi non, je mets des points, je mets des virgules, je mets des points-virgules, je mets beaucoup de points-virgules là-dedans. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Sioran. Il dit je rêve d'un monde où l'on mourrait pour une virgule. C'est vrai que c'est un monde qui est assez enviable en fait. Un monde où l'on mourrait pour une virgule. Puis il y en a une autre aussi d'Oscar Wilde, puisqu'on est dans les citations. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Ce matin, j'ai mis une virgule et cet après-midi, je l'ai retirée. Et moi, j'écris très lentement et c'est vrai que je pourrais faire mienne la phrase d'Oscar Wilde. Enlever une virgule le matin et mettre une virgule le matin et la retirer l'après-midi.
Merci beaucoup, François-Henri Désirable.
Je vous en prie.